recueillir dans la prière. Ô Dieu, notre cœur est plein de reconnaissance pour ta grâce. Tu nous accordes encore une journée merveilleuse dans cette nature si belle. Et nous te demandons que ta parole, ce matin, puisse pénétrer nos cœurs et que nous puissions avoir un vrai contact avec toi par ton esprit en Jésus-Christ. Amen. Eh bien, mes amis, en ce jeudi matin, 13 juillet 2000, nous continuons notre étude sur le thème « Il y a ici plus que Salomon ». Hier soir, nous avons commencé de parler du règne de Salomon. David était mort. Mais j'ai encore été frappé en pensant à la mort de David comparée à la mort de son prédécesseur. Qui meurt, ce Saül, sur la montagne de Gilboa en se suicidant. Ce n'est pas un témoignage. David, lui, il connaît aussi la vieillesse, les infirmités de la vieillesse, on n'arrive pas à le réchauffer, mais malgré tout, il est dit dans plusieurs passages que Saül est mort en bénissant Dieu et en bénissant les nations. Qui?
David.
Qu'est-ce que...
Saül
est mort sur la montagne de Gilboa. Oui, c'est bien le moment que j'arrête. Mais ce n'était pas un témoignage de se suicider. C'est pour ça que je vous disais, dans les premières réunions, notre mort, nous devons l'envisager, elle doit être à la gloire de Dieu. Et ce qui me frappait, c'est que David, tout en connaissant les infirmités, a quand même pu glorifier Dieu dans sa mort. La difficulté, j'aurais voulu la vaincre en vous donnant à tous une version pour que vous puissiez suivre. Et peut-être que vous avez été un peu troublé parce que je prenais la dernière version qui est parue à la Société biblique en français. Et c'est peut-être pas tout à fait le texte que vous avez. Qu'est-ce que vous avez comme texte? Vous avez la Louis II, Scofield, c'est la même, de 75, 79, parce qu'elle avait été révisée. Comment? Vous aimez pas la 79? Oui.
Travailler au fond de briques au lieu de sa
place. Ah oui, parce qu'ils ont voulu atténuer.
Oui.
Eh oui, mais tout ça, on le met de côté. Parce que vraiment, et ça retenait cela, quand on est dans un état de péché, bon, on pèche de toutes sortes de manières. Et c'est ça qui est frappant. Il a fait des choses. Et vous devez bien penser que si Dieu ne lui a pas permis de construire le temple, il y avait une raison. Il lui dit, c'est pas toi qui construiras le temple, tu avais été un homme de sang. C'est très frappant. Et nous avons cité aussi Moïse, qui à un moment donné n'a pas glorifié son Dieu, et s'est mis un peu en avant, de « tu n'entreras pas dans le pays ». C'est grave. Alors vous voyez, les serviteurs de Dieu, comme tous les autres, doivent veiller sans cesse et savoir que ce n'est pas des années et des années de ministère qui les ont améliorés. Il n'y a pas d'amélioration du cœur de l'homme. Mais il y a eu acceptation du Seigneur et puis notre mort en lui. Et la seule force contre le péché, c'est de réaliser la mort. Je suis mort en toi. Alors la croix n'est plus seulement pour Jésus, mais la croix elle est pour moi. Et je ne puis pas régner là où mon Seigneur a été crucifié. De sorte que c'est tout à fait normal que les membres du corps connaissent la souffrance et les humiliations. Mais alors on les accepte. Alors, mes amis, hier soir, nous avons commencé vraiment d'entrer dans ce règne de Salomon. Et j'ai souligné que ce règne avait débuté, au fond, chez Salomon, par 3 exécutions capitales. Et qu'il y avait suggéré, plus ou moins, qu'il devait faire attention à ces gens-là, c'était son père, qui savait très bien que le jeune Salomon, il n'avait que 20 ans, certains disent 19 ans, quand il a été nommé roi par son père, selon le commandement du Seigneur. Alors, son père, comme vous l'avez remarqué, l'avait mis en garde contre certaines personnes qui étaient toutes coupables. Et Salomon avait gardé cela dans son cœur. Et quand il a été roi, ben il a commencé par juger ces gens-là et il y a eu donc plusieurs exécutions. Ça a affermi le règne de Salomon. Vous prenez dans le deuxième livre, dans le premier livre des rois, et vous voyez que Salomon a été, au fond, oint 2 fois. Je prends premier livre des rois, chapitre 1er, verset 38. Le sacrificateur Tsadok descendit avec Nathan le prophète, Benaïa, fils de Jéhoïada, le Kérétien, les Pélétiens. Ils firent monter donc Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Guyon. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente et éloignit Salomon. Il avait déjà été nommé par son père. On sonna de la trompette et tout le peuple cria « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie et la terre s'ébranlait à ses cris. Et puis alors, on a vu que Adonija a été mis de côté, mais il s'est d'abord rendu auprès de Salomon, qui n'a pas voulu l'exécuter. Immédiatement, mais c'est après, quand Salomon s'est rendu compte que tout un travail se faisait auprès de sa mère, pour qu'il puisse épouser une des femmes de Saül, une des femmes de David, alors lui a vu le danger que sa mère n'avait pas vu, et il a fait exécuter son frère. Alors vous voyez, tous les enfants de David ont fini, à peu près tous, tragiquement. Et malgré cela, nous allons voir que Salomon a imité son père en prenant plusieurs femmes qui allaient le faire tomber et qui vont expliquer la chute de Salomon dans sa vieillesse. Et c'était une vieillesse qui n'était pas très grande, puisqu'il avait environ, nous l'avons dit, 60 ans. Alors, je lis au chapitre 3e. Je passe donc sur ce qu'on a rappelé, les exécutions qui ont eu lieu et qui ont établi, au fond, le règne de Salomon. Verset 3. Salomon aimait l'Éternel. Donc, quand il a été nommé, il aimait l'Éternel. Il suivait les coutumes de David, son père, qu'il avait enseigné après Nathan. Seulement, c'était sur des hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Il n'avait pas été jusqu'au bout. Et nous avons vu qu'ils se sont rendus à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Et Salomon offrit 1000 holocaustes. Et là, malgré que c'était un haut lieu, dans sa grâce, l'Éternel est apparu à Salomon, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. On a vu déjà cela. Et Salomon, bien instruit par son père, a demandé la sagesse. Et il rappelle à Dieu ce qu'il a fait pour son père. Donc vous voyez qu'une prière, c'est un entretien avec le Seigneur. C'est pas quelque chose qui est tout fait et que l'on récite. Prier, c'est avoir la parole dans son cœur, on est avec le Seigneur. Comme je vous le disais tout à l'heure, hier, sur le chemin, j'ai eu cette attaque. C'est pas de la blague ce que je vous ai dit. C'était une réalité. Alors, ce qu'il fallait savoir, c'est est-ce que ça venait du diable ou est-ce que ça venait de Dieu? Qu'est-ce qui avait été demandé? Une jeune fille qui m'en avait parlé il y a déjà longtemps à Montréal me dit, si je peux aller au camp, est-ce que vous me baptiseriez? Je voudrais être baptisé par obéissance au Seigneur. Puis, je voudrais que mes parents soient là. Mes parents sont catholiques. Je ne sais pas s'ils viendront, mais peut-être qu'ils viendront. Et voilà qu'ils sont là. Donc il y a des exaucements pour cette jeune fille. Je la connais bien, je connais bien son nom. Elle vit avec deux de mes filles dans le même appartement. Comprenez-vous? C'est pas simplement une défaillance de l'âge, mais c'est une attaque de Satan. Alors, sur le chemin, qu'est-ce que je dois faire? Évidemment, je suis un homme comme les autres. Alors, j'ose pas lui dire quel est ton nom. Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va penser? Que je l'aime pas ou pour que je me souvienne pas de son nom? Mais, étant un homme, j'ai commencé par lui dire, tu n'as qu'un nom ou tu en as deux? Vous voyez, ça c'est l'humain. Et puis, elle me dit, oui, mon second nom, c'est Mireille. Bon. Mais, je ne peux pas baptiser Mireille. C'est Geneviève. Mais je l'ai pris, c'est blanc complètement. Alors j'arrive à la chapelle, dans un état incroyable, criant au Seigneur, mais use de grâce. Ça ne se peut pas, c'est Satan. Résistez au diable, et il s'enfuira de vous. C'est ça. Parce que je sais que ce que nous étions en train de faire était à la gloire de Dieu. Alors il ne fallait pas que ça cloche. Alors, ce qui compte, c'est d'aimer le Seigneur, voyez. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Il n'aurait pas dû toutes les suivre. Parce qu'au fond, avec toutes les femmes qu'il a eues, il a fait comme son père. Mais, Dieu est là. Alors à Gabaon, verset 5, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. On l'a prêché ça, hein, on l'a dit. Alors qu'est-ce que je pouvais dire le long du chemin? Donne-moi son nom. Mais c'est que dans l'eau qu'il me l'a donné. Vous savez, c'est pas facile. C'est un combat qui épuise. Mais il y a la victoire. Mais on a besoin des armes de Dieu, tu l'as dit, Seigneur. Je sais qu'il y en a qui ont remarqué que, à la chapelle, j'ai dit notre sœur. C'était vrai. J'avais plus son nom. Notre sœur, oui. C'était notre sœur. Mais ça a permis qu'elle-même nous dise ce qu'elle avait compris du baptême. C'est pour ça que je l'ai laissé lire le chapitre 6. Les Romains. Alors nous sommes remontés. Mais j'étais complètement épuisé. Et quand je me suis levé pour aller là, ben, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Mais vous aviez la parole. Et c'est cette parole qui nous reste. Nous avons éprouvé que c'est vrai. Demande ce que tu veux que je te donne. Et il l'a donné. Et alors, nous avons parlé de Gabaon, donc où le Seigneur est apparu. Et on a terminé avec le jugement de Salomon qui lui a donné une réputation dans le monde entier. En l'an 600, on a découvert à Pompéi, en Italie, une peinture qui nous montre ce songe. Ce songe, c'est-à-dire ce jugement. comment Salomon a trouvé que quelle femme était coupable. Alors je lis au chapitre 2, Salomon siégea sur le trône de son père, David. Et son règne fut tout à fait affermi. Puis maintenant, on va au chapitre 3. Salomon s'allia par mariage avec le pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille du pharaon et il l'amena dans la cité de David jusqu'à ce qu'il eût achevé sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux car on n'avait pas bâti de maison au nom de l'Éternel jusqu'alors. Et nous avons souligné hier encore, Salomon aimait l'Éternel et suivait les prescriptions de son père, mais lui aussi ne sacrifiait et n'offrait de parfum que sur les hauts lieux. Alors nous avons, là, c'est de nouveau la traduction nouvelle que j'emploie. Et nous sommes arrivés à ce jugement de Salomon. Au verset 16 du chapitre 3. Les deux femmes prostituées. Et au chapitre 4, alors, commence la révélation de la sagesse de Salomon pour organiser son royaume. Le roi Salomon était roi sur tout Israël. Voici ses ministres. Puis il y a les noms des ministres. Je vous épargne ces noms. Verset 7. Salomon avait 12 préfets sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison, chacun y pourvoyait pendant un mois de l'année. Et puis, vous avez leur nom. Puis on arrive au chapitre 5. Salomon dominait encore sur tous les royaumes. Depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Et vous savez, les Juifs étudient beaucoup cela en ce moment encore, parce qu'ils voudraient trouver dans l'Écriture les frontières de leur pays d'aujourd'hui. Ils apportaient des présents et furent assujettis à Salomon tous les jours de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres, et puis vous avez toutes ces vivres qui sont mentionnées, et des animaux qu'il employait pour les sacrifices. Verset 4. Il exerçait son autorité sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tifa jusqu'à Gaza. Vous entendez parler souvent de Gaza maintenant, la capitale où sont les Arabes. Surtout le poids de l'autre côté du fleuve, surtout les rois de l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix de toutes parts. Et le nom de Salomon voulait dire pacifique. Hein. Il y avait la paix de toutes parts. Juda et Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, donc du nord au sud, habitèrent en sécurité et il est dit chacun sous sa vigne et sous son figuier tous les jours de Salomon. Donc, il ne vivait pas cloîtré dans des boîtes. Mais chacun avait sa vigne et son figuier. C'était une image du règne du Christ. Quand il règnera, chacun sera sous sa vigne et son figuier. Mais il y avait autre chose. Salomon avait des écuries pour 40 000 chevaux. Alors qu'est-ce qu'on apprend là? Il s'est déjà éloigné de la parole de Dieu. C'est le commencement, parce que il avait lu le chapitre 17 du Deutéronome qui disait que quand il y aurait un roi en Israël, verset 14 du chapitre 17, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu en prendras possession, que tu y habiteras et que tu diras, je veux établir sur moi un roi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu établiras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu, tu établiras sur toi un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. C'était écrit, hein. Mais il a un grand nombre de chevaux. Qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez pas par ce chemin-là. Puis, qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne s'écarte pas et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or, etc. Alors, on voit donc que il a commencé par ne pas suivre exactement ce qui était commandé dans la parole. Salomon, verset 6, avait des écuries pour 40 000 chevaux, pour ses chars et pour 12 000 cavaliers. Puis, les préfets pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui s'approchaient de la table du roi Salomon, chacun pendant son mois. Il ne les laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers, chacun de l'endroit où il se trouvait appelé par ses fonctions. Puis après, vous avez un texte qui parle de sa grandeur. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances étendues comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'élan les Zaphis, plus qu'aimant Talcol et Darda, les fils de Malcol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations environnante. Et puis, il est dit, il a prononcé 3000 proverbes et ses chants au nombre de 1005. Et puis, j'ai été frappé, et vous l'aurez été aussi, on voit que celui qui nous a raconté une histoire pour les enfants avait lu ce texte et s'est inspiré de ce texte d'abord. Il a parlé sur les arbres. Et ceux qui ont été ici dans les camps savent qu'une fois au camp, on a parlé des arbres. Chaque arbre a sa signification. Puis, il est dit, depuis le cèdre du Liban, qui est le plus beau, le plus grand, jusqu'à l'hysope, le plus petit, hein, le plus humble, qui sort du mur. Il a aussi parlé sur les bêtes. Eh bien, puisqu'on était dans le sujet de Salomon, pourquoi ne pas prendre 4 animaux pour parler aux enfants? Et c'était la première fois qu'il le faisait. Alors, il a parlé sur les bêtes, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Vous voyez qu'on peut trouver, il était dans la ligne. On venait de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Et alors, ce que Salomon savait, c'est qu'il devait construire ce temple de l'Éternel. C'était lui qui avait été choisi. Mais il lui fallait préparer pour cette construction toute chose à l'avance. Alors, il avait des relations avec Hiram, roi de Tyr. Vous voyez qu'il avait des relations avec le pharaon. Et ça donnait à sa femme un certain pouvoir. Maintenant, il a des relations avec un autre roi, le roi de Tyr. Il envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on lui avait donné l'onction comme roi à la place de son père. Or, Hiram avait toujours aimé David. Salomon envoya dire à Hiram, « Tu as connu David, mon père. Il n'a pas pu bâtir une maison au nom de l'Éternel, son Dieu, à cause de la guerre qu'on lui a faite de toutes parts, jusqu'à ce que l'Éternel ait mis ses ennemis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires. » Et on aurait pu parler des différents adversaires qu'il avait eus, en tout cas trois en particulier, qui avaient été mis de côté. Plus d'adversaires, plus de coups malheureux. Voici que j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à mon père. Donc, vous voyez, ils en ont toujours parlé, en père et fils, à mon père David en disant, « Ton fils que je mettrai à la place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec tes serviteurs, je te donnerai le salaire de tes serviteurs conformément à tout ce que tu diras, car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui sache couper les arbres comme les Sidoniens. » Donc, vous voyez, on cherche des hommes capables. Salomon ne veut pas n'importe qui. Il choisit dans les peuples ceux qui sont capables de faire le meilleur travail. Verset 21. Alors, quand Salomon demande cela, lorsqu'Hiram entendit les paroles de Salomon, il eut une grande joie. Qu'est-ce qui met la joie dans le cœur? C'est le Seigneur. Et il dit, « Béni soit aujourd'hui l'Éternel, qui a donné à David un fils sage pour diriger ce peuple nombreux. » Hiram envoya répondre à Salomon, « J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce que tu désires au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. » Quand on fait entrer le Seigneur dans les questions matérielles, on le voit agir en grâce et en puissance. « Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, je les expédierai par la mer en radeau jusqu'à l'endroit où tu m'enverras de la main d'eux. Là, je les ferai délier, tu les prendras en charge. Quant à toi, tu feras ce que je désire, en donnant des vivres à ma maison. » Au fond, c'est une affaire, une alliance entre Israël et le peuple du Liban, qui a des besoins très grands au point de vue des vivres. Alors, Salomon va donner des vivres en compensation du bois que va lui fournir Hiram. Hiram donnait à Salomon du bois de cèdre, du bois de cyprès, autant qu'il en désirait. Salomon donnait à Hiram 20 000 corps de froment, donc vous voyez, il avait besoin de froment, pour l'entretien de sa maison, 20 cors d'huile d'olive concassée, voilà ce que Salomon donnait chaque année à Hiram. L'Éternel avait donné de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait dit. Il y eut paix entre Hiram et Salomon, et ils conclurent ensemble une alliance. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Ils étaient au nombre de 30 000. Il les envoya au Liban, et ça, notez bien ce verset, il est important. 10 000 par mois, alternativement. Ils étaient un mois au Liban et 2 mois chez eux. C'était sage, hein? Et je me souviens, pendant la dernière guerre en Suisse, on s'est inspiré de ce texte pour les soldats qui allaient à la frontière, en suivant ce que Salomon avait dit. 1 mois loin, 2 mois à la maison, pour que la femme et les enfants aient leur mari et leur père. Vous voyez qu'on peut trouver dans la parole des lumières tout à fait pratiques. Ils étaient 1 mois au Liban et 2 mois chez eux. Je me souviens que j'avais découvert cela, j'avais 17, 18 ans, et ça m'était resté. Adoniram était surveillant des corvées. Salomon avait encore 70 000 manœuvres et 80 000 tailleurs de pierre dans la montagne. Donc on ne coupait pas seulement les arbres, mais on taillait les pierres. Sans compter les chefs des préfets de Salomon, préposés aux travaux, 3 300 qui exerçaient leur autorité sur ceux qui exécutaient les travaux. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres pour poser en pierre de taille les fondations de la maison. Les ouvriers de Salomon, les ouvriers de Hiram, et les Gibéens les taillèrent et préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison. Alors vous voyez, il y a eu toute une préparation pour cette construction. On arrive au chapitre 6, qui est le commencement de cette construction qui vient de Salomon. Ce fut la 480e année après la sortie des Israélites du pays d'Égypte, donc 480 ans après la délivrance de l'Égypte, la 4e année du règne de Salomon sur Israël, au mois de Zif, qui est le second mois qu'il bâtit la maison pour l'Éternel. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur, et 30 coudées de hauteur. Vous voyez, quand c'est Dieu qui ordonne, il donne les mesures. C'est précis. Est-ce qu'il y a d'autres exemples où il a fait la même chose? Pour l'arche de Noé, il lui a dit quelle voie il devait employer. Et puis, il lui a donné les mesures. Et il lui a dit qu'il fallait qu'il fasse 3 étages. Donc, il n'y a rien qui est laissé à l'action de l'homme, à l'imagination de l'homme. Verset 3. Le vestibule à l'avant du temple de la maison avait 20 coudées de longueur, correspondant à la largeur de la maison, et 10 coudées de profondeur sur la façade de la maison. Il fit à la maison des fenêtres à claire-voie grillagée. Il bâtit contre le mur de la maison des étages périphériques qui entouraient les murs de la maison, temple et sanctuaire, et il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de 5 coudées, celui du milieu large de 6 coudées, le troisième large de 7 coudées.
En effet, il avait ménagé des retraits à la maison tout autour de l'extérieur, afin que la charpente ne prenne pas dans les murs de la maison. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées. Notez bien cela. On ne les a pas taillées sur place. Et ni marteau, ni hache, ni aucun outil de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la bâtissait. C'est formidable. C'était le silence, mais tout était préparé. Alors, il y a une application spirituelle. Maintenant, on fait beaucoup de bruit dans les temples. Verset 8. L'entrée des chambres de l'étage intermédiaire était au côté droit de la maison. On montait à l'étage intermédiaire par un escalier et l'étage intermédiaire au troisième. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon la recouvrit de planches et de poutres de cèdre. Il bâtit les étages de 5 coudées de hauteur contre toute la maison et les fixa à la maison par du bois de cèdre. La parole de l'Éternel fut adressée à Salomon en ces mots : cette maison que tu bâtis, voilà, c'est Dieu qui parle, si tu marches selon mes prescriptions, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la parole que j'ai dite à ton père David. J'y habiterai au milieu des Israélites, et je n'abandonnerai pas mon peuple d'Israël. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon en bâtit les murs intérieurs en planches de cèdre, depuis le sol de la maison jusqu'au plafond. Il recouvrit ainsi de bois l'intérieur et recouvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Il bâtit sur 20 coudées le fond de la maison en planches de cèdre, depuis le sol jusqu'au haut des murs, et il bâtit ainsi l'intérieur pour en faire un sanctuaire, le Saint des Saints. Les 40 coudées sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures, des coloquins, des fleurs épanouies. Tout était de cèdre. On ne voyait aucune pierre. Salomon établit un sanctuaire intérieur au milieu de la maison pour y placer l'arche de l'Alliance de l'Éternel. En avant du sanctuaire, qui avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur, 20 coudées de hauteur, il y avait, et qu'il avait recouvert d'or fin, il recouvrit de cèdre un autel. Salomon recouvrit d'or fin l'intérieur de la maison, et il fit passer des chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il avait recouvert d'or. Il avait donc recouvert d'or toute la maison tout entière. Il l'avait recouvert d'or, tout l'autel qui était devant le sanctuaire. Il fit dans le sanctuaire 2 chérubins de bois, d'olivier sauvage, ayant 10 coudées de hauteur. L'une des ailes d'un chérubin avait 5 coudées de l'extrémité d'une de ses ailes à l'extrémité de l'autre. Le second chérubin avait aussi 6 coudées. La mesure et la forme étaient les mêmes pour les 2 chérubins. La hauteur du premier chérubin était de 10 coudées, de même pour le 2e chérubin. Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison à l'intérieur. On déploya les ailes des chérubins. L'aile du premier touchait à l'une des parois, et l'aile du second chérubin touchait à l'autre paroi, et leurs ailes se touchaient au milieu de cette maison, aile contre aile. Salomon recouvrit d'or les chérubins. Il fit sculpter en creux sur tout le pourtour des murs de la maison à l'intérieur, à l'extérieur, des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Il recouvrit d'or le sol de la maison à l'intérieur et à l'extérieur. Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à deux battants de bois d'olivier sauvage. Le pilier de l'encadrement équivalait à un cinquième mur. Les deux battants étaient de bois d'olivier sauvage. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes, des fleurs épanouies. Il les recouvrit d'or. Il plaqua aussi de l'or sur les chérubins et sur les palmes. Il fit de même pour l'entrée du temple un encadrement de bois d'olivier sauvage ayant le quart de la dimension du mur et deux battants de bois de cyprès. Deux planches pivotantes pour le premier battant et deux rideaux pivotants pour le deuxième battant. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes, des fleurs épanouies et les recouvrit d'or ajusté à la gravure. Il bâtit le parvis intérieur de trois rangées de pierres de taille et d'une rangée de poutres de cèdre. La quatrième année, au mois de Zif, les fondations de la maison de l'Éternel furent posées. Et vous vous souvenez que on a lu que David avait reçu le plan, tous les plans, tout le modèle, hein, et il les avait donnés à son fils. Et ce modèle, il dit qu'il les avait reçus de Dieu. Verset 38. Et la onzième année, au mois de Boul, qui est le huitième mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Elle devait être comment? Comme Dieu l'avait ordonné. Et Salomon la construisit en 7 ans. Alors ensuite, il s'est occupé de sa maison. Quant à sa maison, Salomon la bâtit pendant 13 ans. Et il acheva ainsi toute la cité royale. Il bâtit d'abord la maison de la forêt du Liban, longue de 100 coudées, large de 50 coudées et haute de 30 coudées. Parce qu'il faut que vous lisiez cela, parce que on va la visiter, cette maison, avec la reine de Sheba. Et on verra si vous êtes impressionné comme elle le fut. Il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. Elle était recouverte de cèdre par-dessus les planches qui étaient sur les colonnes au nombre de 45 par rangée. Il y avait 3 rangées de claire-voie et 3 pas d'une embrasure à l'autre. Toutes les ouvertures et tous les encadrements étaient à claire-voie et carré. De devant une embrasure à l'autre, il y avait 3 pas. Il fit le vestibule des colonnes, long de 50 coudées, large de 30 coudées, et un vestibule en avant avec des colonnes et un entablement en avant. Il fit le vestibule du trône, où il rendait la justice, le vestibule du jugement, et il le recouvrit de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Sa maison où il habitait fut construite de la même manière, dans une autre cour, derrière le vestibule. Salomon fit une maison du même genre que ce vestibule pour la fille du pharaon qu'il avait prise pour femme. C'était une de ses femmes. Pour tout cela, on employa de magnifiques pierres de taille, sur mesure, taillée à la scie pour l'intérieur comme pour l'extérieur, et cela depuis la fondation jusqu'aux corniches, et de l'extérieur jusqu'à la grande cour. Les fondations étaient en magnifiques pierres de en pierre de 10 coudées et en pierre de 8 coudées. Au-dessus, il y avait encore de magnifiques pierres de taille sur mesure du cèdre et du cèdre. La grande cour avait surtout son périmètre 3 rangées de pierres de taille et 1 rangée de poutres de cèdre, comme le parvis intérieur, la maison de l'Éternel, et comme le vestibule de la maison. Alors le roi envoya chercher à Tyr Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien, qui travaillait le bronze. Il était rempli de sagesse, d'intelligence et de connaissance pour faire toutes sortes d'ouvrages de bronze. C'était pas n'importe qui. Il arriva auprès du roi Salomon, et il exécuta tous ses ouvrages. Il moula les 2 colonnes de bronze. La première colonne était de 10 coudées en hauteur, et un fil de coudée mesurait la circonférence de la seconde colonne. Il fit les 2 chapiteaux en fonte de bronze pour les mettre sur le sommet des colonnes. Le premier chapiteau avait 5 coudées de hauteur, le second chapiteau 5 coudées de hauteur. Il fit des treillis en forme de réseau, des cordons façonnés en chaînettes pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, 7 pour le premier chapiteau, 7 pour le second chapiteau. Il fit des grenades en 2 rangs autour de l'un des treillis pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet d'une des colonnes. Il fit de même pour le second chapiteau. Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes dans le vestibule figuraient des lisses et avaient 4 coudées. Les chapiteaux placés sur 2 colonnes étaient entourés de 200 grenades en haut près du renflement qui était au-delà du treillis. Il y avait aussi 200 grenades rangées autour du second chapiteau. Il dressa les colonnes près du vestibule du temple. Il dressa la colonne de droite et la nomma Yakin. Puis il dressa la colonne de gauche. Il la nomma Bose. Il y avait sur le sommet des colonnes un travail figurant des lisses. Ainsi fut achevé l'ouvrage des colonnes. Et Yakim veut dire il a fermi, et Bose veut dire en lui est la force. Et si vous lisez dans l'Apocalypse, il est dit que le chrétien doit être une colonne. Donc, tout cela a un sens spirituel, et c'est dans la méditation que nous pouvons le trouver. Mais pour le trouver, il faut d'abord avoir connaissance du texte, et c'est pour ça que je me sens poussé à vous lire ce texte. Verset 23. Il fit la mer de fond. Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur et une circonférence qui mesurait un cordeau de 30 coudées. Des coloquintes l'entouraient au-dessous de son bord, 10 par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les coloquintes disposées sur 2 rangs étaient fondues avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur 12 bœufs, dont 3 tournés vers le nord, 3 tournés vers l'ouest, 3 tournés vers le sud, trois tournés vers l'est. La mer reproduisait au-dessus d'eux et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'un palme et son bord était façonné comme le bord d'une coupe en fleur de lys. Elle contenait 2000 battes. Il fit les 10 bases de bronze, chaque base avec 4 coudées de longueur, 4 coudées de largeur, 3 coudées de hauteur. Voici comment étaient faites ces bases. Elles étaient formées de panneaux. Ces panneaux étaient pris entre les montants. Sur les panneaux qui étaient pris entre les montants, il y avait des lions, des bœufs et des chérubins. Et sur les montants, au-dessus comme au-dessous des lions et des bœufs, il y avait des ornements qui pendaient. Chaque base était 4 roues, avec 4 roues de bronze, avec des essieux de bronze, et aux 4 angles étaient les consoles. Les consoles étaient en métal fondu au-dessus de la cuve et au-delà des ornements. La cuve offrait à son intérieur une ouverture avec un prolongement d'une coudée vers le haut. Cette ouverture était ronde, comme pour les ouvrages de ce genre. Elle avait une coudée et demie de largeur. Il y avait aussi des sculptures sur cette ouverture. Les panneaux étaient carrés et non arrondis. Les 4 roues étaient sous les panneaux et les essieux des roues fixés à la base. Chaque roue avait une coudée et demie de hauteur. Les roues étaient faites comme des roues d'un char. Leurs essieux, leurs jantes, leurs rayons, leurs moyeux, tout était de métal fondu. Il y avait aussi 4 angles de chaque base, 4 consoles d'une même pièce que la base. À la partie supérieure de la base, il y avait un cercle d'une demi-coudée de hauteur. À la partie supérieure de la base, ses appuis et ses panneaux étaient de la même pièce. Sur les plaques des appuis, sur les panneaux, il grava des chérubins, des lions et des palmes, selon les espaces libres et les ornements tout autour. C'est ainsi qu'il fit 10 bases, même métal fondu, même mesure et même forme pour toutes. Il fit 10 cuves de bronze. Chaque cuve contenait 40 battes. Chaque cuve avait 4 coudées. Chaque cuve était sur l'une des 10 bases. Il plaça 5 bases sur le côté droit de la maison et 5 bases sur le côté gauche de la maison, et il plaça la mer du côté droit de la maison au sud-est. Hiram fit les cuves, et les pelles, et les calices. Hiram, donc, cet homme envoyé depuis le Liban, qui était spécialiste, Hiram acheva tout l'ouvrage qu'il avait fait pour le roi Salomon dans la maison de l'Éternel. 2 colonnes avec 2 chapiteaux évasés sur le sommet des 2 colonnes. Les 2 treillis pour couvrir les deux évasements des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Les 400 grenades pour les 2 treillis. 2 rangées de grenades par treillis pour couvrir les 2 évasements des chapiteaux sur les sommets des colonnes. Les 10 bases, les 10 cuves sur les bases, la mer seule de son espèce, et les 12 bœufs sur la mer. Les chaudrons, les pelles, les calices, tous les objets que Hiram avait faits pour le roi de Salomon dans la maison de l'Éternel, était de bronze poli. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans l'épaisseur du sol, entre Soukhot et Tsartan. Salomon laissa faire tous ses objets. Lisez bien cela. Salomon laissa faire tous ses objets sans évaluer le poids du bronze, parce qu'il était en très grande quantité. Salomon fit encore tous les autres objets de la maison de l'Éternel, l'autel d'or, la table d'or, sur laquelle on mettait les pains de proposition, les chandeliers d'or fin, 5 à droite, 5 à gauche, devant le lieu saint, avec les fleurs, les lampes, les mouchettes d'or, les bassins, les couteaux, les calices, les coupes, et les brasiers d'or fin, et les gonds en or pour les portes à l'intérieur de la maison, à l'entrée du Saint des Saints, et pour les portes de la maison à l'entrée du temple. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Salomon apporta ce que son père David avait consacré, l'argent, l'or et les objets. Il les plaça parmi les trésors de la maison de l'Éternel. Et alors, ce soir, nous étudierons la dédicace de cette maison. Et comment, après avoir dédicacé cette maison à l'Éternel, l'Éternel apparut une seconde fois à Salomon. Une seconde fois. Il lui est apparu à Gabaon la première fois pour lui dire qu'il lui donnerait ce qu'il lui demandait. Et puis, quand la maison a été achevée, et vous savez, ça vaut la peine de dire ça une fois, parce que vous vous rendez compte des précisions que le Seigneur nous donne pour notre vie. S'il a donné ces précisions pour la construction de cette maison, vous pouvez croire qu'il vous donnera aussi tous les conseils pour savoir comment vous devez agir. Je pense que nous voulons nous arrêter.